Et donc, nous nous étions arrêtés hier, juste après le lancement du DVD, qui avait été une bataille sans être une bataille. Enfin, il y avait eu une bataille, mais en coulisses. Donc, évidemment, pour le consommateur final, elle avait été transparente. Mais en réalité, il y a bien quand même un vainqueur, Toshiba, qui prend la tête du coup du DVD Forum. Et qui se retrouve l'entreprise leader au moins sur le plan symbolique, hein, pas forcément sur le plan des parts de marché, mais et puis Sony qui digère très mal sa défaite et donc qui dès qu'il en a l'opportunité avec les DVD enregistrables commence déjà à créer une faille dans le standard en proposant un deuxième type de DVD enregistrable. Donc on sent la volonté comment dire, de s'extraire de la domination de Toshiba. Et puis donc, on avait terminé sur le fait que on commence à la même époque, enfin un peu après, quelques années plus tard, à travailler sur une nouvelle version de DVD en quelque sorte, utilisant une technologie différente. Et donc, Sony y voit l'opportunité de reprendre un petit peu la main. Et donc il est le premier avec Pioneer à présenter un prototype de lecteur à diode bleue. Évidemment, vous en doutez, Toshiba va pas se laisser faire, hein, mais du coup, Sony prend un peu le lead, désolé pour l'anglicisme, du point de vue technologique. Et la partie est largement consacrée à l'apprentissage organisationnel et stratégique. Là, cette fois, quand même, ils vont modifier leur façon de faire habituelle et ils vont rapidement créer une alliance autour d'eux, alors que toutes les caractéristiques du futur Blu-ray ne sont pas encore fixées. Donc, même s'il va apporter beaucoup de choses et s'il va très largement diriger les réflexions sur le futur Blu-ray, cette fois, il intègre des partenaires plus tôt et alors que le produit n'est pas encore tout préfet. Donc Toshiba, je le disais, ne va évidemment pas se laisser faire, hein, et donc travaille en parallèle sur un standard concurrent. Et comme il est à la tête Toshiba du DVD Forum, évidemment, ils vont essayer, face à la Blu-ray Disc, enfin, c'est encore le Blu-ray Disc Fonder Group, mais la future Blu-ray Disc Association, ils vont tenter d'embarquer le DVD Forum avec eux, c'est-à-dire le DVD Forum, c'est tous les fabricants un peu significatifs de DVD. Donc, sauf ceux de l'Alliance, hein, autour de Sony. Et donc, on rediscute. On essaye de voir si on ne peut pas éviter une guerre et trouver un terrain d'entente en coulisses comme ça avait pu se faire pour le DVD. Mais vous vous doutez bien que dans les circonstances en question, Toshiba veut garder son leadership. Après tout, ça fait quand même pas tant d'années que ça qu'il l'a récupéré. Et puis Sony veut absolument pas céder face à Toshiba. Le résultat, c'est que cette fois, on se quitte sur un constat d'échec, sur le fait que donc, on ne trouve pas de compromis. Du coup, chacun va lancer ses produits, hein. En mars 2006, on lance les premiers lecteurs HD DVD. Très peu de temps après, hein, ça ne crée pas un avantage considérable. Le premier lecteur Blu-ray est lancé, alors avec un aspect intéressant et qui illustre bien la différence d'approche de Sony sur ce standard-là, c'est que c'est Samsung qui lance le premier lecteur Blu-ray. Hein, donc, vous voyez que ça montre bien qu'il n'y a pas Sony et les autres. Hein, c'est un groupe qui, certes, est piloté par Sony, hein, très clairement. D'ailleurs, c'est eux qui ont comment dire, dans le groupe, c'est quand même eux qui maîtrisent le plus de technologies qui sont associées au lecteur Blu-ray. Et d'ailleurs, il y a le principal fabricant de diodes bleues qui s'appelle Nichia. Eux, ils décident de ne pas choisir leur camp. De toute façon, ils ont tout intérêt à vendre des diodes à tout le monde. Hein. Mais un petit avantage de Sony au passage, c'est qu'ils sont les seuls à savoir les fabriquer aussi. C'est-à-dire que les autres sont obligés de se fournir essentiellement chez Nichia. Que ce soit les membres du club Blu-ray ou du clan HD-DVD, mais Sony peut en plus fournir ceux du clan Blu-ray, alors qu'il ne fournira évidemment pas de diode bleue au clan HD-DVD. La bataille, a priori, semble très serrée. Parce que finalement, si on regardait qui était dans chaque camp, bah, il n'y a pas un camp qui se détache très nettement comme ça avait été le cas pour le VHS face au Betamax, hein. Il y a des camps assez équilibrés. Dans les deux camps, vous avez des studios de cinéma. Donc il n'y a pas non plus un côté où, d'accord, c'est équilibré côté fabricant d'électronique, mais les studios de cinéma soutiennent très majoritairement à des standards comme c'était le cas pour le DVD. Là, cette fois, c'est vraiment très équilibré. Enfin, je pourrais vous donner une petite anecdote à ce propos. Et puis, bah, comme souvent, même si ici c'est pas extrêmement spectaculaire, bah, malgré tout, le fait de ne pas savoir lequel va l'emporter, ça limite un petit peu les ventes. Et les ventes sont d'autant plus limitées que bah, finalement le DVD n'est pas si vieux que ça, hein. Il a été lancé en 97, mais ça veut dire que il y a aussi beaucoup de ménages qui se sont équipés au début des années 2000. Donc, bah, ça fait pas si longtemps qu'ils ont acheté leur lecteur de DVD. Donc, ça fait un peu court pour acheter un nouvel équipement du même type, hein. Et puis le différentiel de performance saute moins aux yeux. Alors, comme il y a plus de, comme ça comporte plus de données de gigaoctets, on peut mettre de la haute définition et donc on a un son et une image encore meilleurs qu'avec le DVD, mais il n'y a pas la même différence qu'entre une cassette VHS et un DVD. Il n'y a pas le même saut en termes de qualité. En plus, pour parfaitement profiter du supplément de performance du Blu-ray par rapport au DVD, eh bien, il faut avoir un téléviseur haute définition. Et à l'époque, bah, le nombre de ménages équipés de téléviseurs haute définition était relativement réduit. Si bien que pour beaucoup de ménages, s'ils voulaient basculer du DVD au Blu-ray ou au HD-DVD, en ayant un avantage très perceptible, bah, il fallait en plus qu'il s'achète un téléviseur. Donc ça fait un investissement conséquent. Du coup, après 1 an et demi, on a 750 000 lecteurs HD-DVD qui ont été installés. A priori, c'est dans le monde de mémoire. Et pour les Blu-ray, c'est encore moins. C'est de l'ordre de 600 000. Alors, à ce moment-là, on aurait pu se dire, c'est assez équilibré. C'est toujours assez équilibré. Mais il y a un petit avantage pour le camp HD-DVD, sauf que, je vous ai dit que Sony était très remonté pour... Et par ailleurs, c'est vrai que si après avoir perdu la bataille du Betamax, après avoir perdu quelque part la bataille du DVD. Parce que même si le consommateur final ne le savait pas, les acteurs du secteur, eux, le savaient. Eh bien, et s'ils perdaient encore la bataille du Blu-ray, les principaux acteurs du domaine auraient fini par anticiper le fait que quand Sony cherchait à lancer un standard, valait mieux miser sur l'autre. Donc, ça aurait pu les handicaper vraiment de façon lourde et à long terme. Donc, il y a un côté rationnel, et puis je vous dis, il y a probablement un côté moins rationnel qui est Toshiba, par son jeu de coulisses, nous a volé le leadership sur le DVD. Il faut absolument qu'on le récupère. Au passage, là, c'est Sony, alors pas tout seul, hein, parce qu'ils ont tout leur groupe, mais il y a plus le duo Sony-Philips. Et là, ils vont prendre un énorme risque financier, qui va d'ailleurs, de fait, leur coûter assez cher, hein. En fait, ils vont utiliser leur console de jeu PS3 à l'époque dans leur bataille de standard. C'est-à-dire que concrètement, ils vont intégrer en série un lecteur Blu-ray à toutes les consoles PS3. Alors, dans le camp du HD-DVD, il y a Microsoft. Donc, Microsoft, du coup, a proposé un lecteur HD-DVD sur la Xbox. Mais la grande différence entre les deux, c'est que côté Microsoft, c'est une option. C'est pas automatique. Et assez peu d'acheteurs de la Xbox, du coup, prennent l'option. Ça augmente énormément le coût de la PlayStation 3. À l'époque, on disait souvent que la PlayStation 3, au départ, devait coûter à peu près 1000 dollars en coût de fabrication. Du coup, évidemment, ils peuvent pas, si vous rajoutez la marge du distributeur, ça paraîtrait assez difficile de vendre une console de jeu quasiment 2000 dollars, hein, vous vous doutez bien. Donc, en fait, ils vont vendre leur console à perte. Alors, ça, en soi, c'est assez courant. Parce que les acteurs sur ce type de produit-là anticipent le fait que les composants qu'ils intègrent, leur prix va baisser. Donc en fait, le coût va baisser et qu'ils peuvent difficilement, effectivement, commencer à vendre à 2000 dollars, et puis 3 mois après descendre à 1600, puis 3 mois après à 1200, puis 3 mois après à 900. Et donc, du coup, ils démarrent directement à un prix ils baisseront quand même par la suite le prix, mais pas du tout au même rythme. Et du coup, l'idée, c'est que les coûts basculeront sous le prix. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'ils récupèrent une partie des pertes qu'ils font à travers les royalties sur les licences de jeu. Or, pour que les jeux se vendent bien, il faut que la console se vende bien, ce qui implique qu'il ne faut pas qu'elle soit trop chère. Et c'est là où le risque de Sony est double, c'est que non seulement il fait plus de pertes que d'habitude sur ses consoles, Mais c'est que malgré tout, pour quand même limiter les dégâts, il fixe le prix de la PlayStation 3 à un prix plus élevé qu'habituellement et plus élevé que celui de la Xbox et encore plus évidemment de la console Nintendo, puisque c'est l'époque de la Wii, donc où Nintendo avait pour la première fois, pour le coup, proposé une console moins chère, mais qui néanmoins leur coûtait encore moins cher. C'est-à-dire que pour une fois, ils faisaient de la marge dès le début sur leur console, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas embarqué les dernières technologies. Ils avaient embarqué des composants qui étaient déjà pas chers. Alors que ce qui légitime en fait cette façon de faire des fabricants de consoles, c'est que bah, sur une génération de consoles, ils vont pas faire bouger beaucoup les composants pendant la durée de vie de la console, si bien que bah, au début, ils mettent toujours des composants très haut de gamme de la dernière génération pour qu'elle reste compétitive suffisamment longtemps. Et donc, par contre, c'est des composants dont le coût va beaucoup baisser. Ce qui n'est pas le même système que dans les ordinateurs, où en fait, les fabricants d'ordinateurs, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux composants qui arrivent, quand il y a une nouvelle génération de microprocesseurs qui arrive, bah, ils l'intègrent tout de suite à leurs ordinateurs haut de gamme, si bien qu'en permanence, ils actualisent leur machine. Et donc, bah, de fait, les ventes de PS3 ne souffrent pas trop, mais quand même, elles se vendent un peu moins que ne s'était vendue la PS2, en tout cas dans un premier temps. À titre indicatif, je crois qu'en France, elle était vendue 600 euros au départ. Donc, vous voyez, grosso modo, ils perdaient 400 euros à chaque fois qu'ils en vendaient une, mais néanmoins, elle était plus chère que les autres. Mais ceci étant, bah vous voyez que en même temps qu'on avait 750 000 lecteurs HD DVD fin 2007 d'installés, eh bien, si on comptait les lecteurs de salon, bah le Blu-ray était en retard. Mais par contre, si on intégrait les PS3, à ce moment-là, c'était 2,7 millions contre 750 000. Or, Sony avait tout fait pour que les utilisateurs de PS3 l'utilisent aussi comme lecteur Blu-ray. Par exemple, il y a eu des campagnes de promotion aux États-Unis où il y avait des disques Blu-ray qui étaient livrés en bonus, en quelque sorte, avec la PS3. Donc vraiment, on faisait tout pour essayer de faire en sorte que les joueurs de PS3 deviennent aussi des utilisateurs de Blu-ray. Pourquoi? Parce que derrière, ça, s'ils s'habituaient à voir des disques Blu-ray en utilisant leur PS3, eh bien, ils allaient acheter des disques Blu-ray, ce qui allait donner un avantage au Blu-ray face au HD DVD. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est l'anecdote que je vous. C'est que les choses se sont, mais alors, précipitées à ce moment-là. Donc, il se trouve qu'à ce moment, enfin, cette année-là, on avait décidé avec deux collègues de travailler sur la bataille Blu-ray contre HD DVD. On avait réuni le maximum de documents et puis on avait mené une analyse en utilisant bah, les théories sur les batailles de standard, hein, dont vous avez eu un extrait pratique, on va dire, bah, dans le cours quand on a parlé des batailles de standard. Et puis, alors évidemment, le but de l'article, c'était pas de faire de la prévision, hein, donc. C'était vraiment plus une analyse en direct de ce qui se passait. C'était d'ailleurs l'originalité, hein, c'est qu'il y a pas mal d'articles sur les batailles de standard, mais ils sont toujours écrits après la bataille. Donc nous, on écrivait un article pendant la bataille. Et l'idée, c'était de soumettre cet article pour un colloque qui avait lieu en juin. Et pour ce type de colloque, l'article est à rendre début janvier. Dans la première version, après on a un retour des évaluateurs et puis on donne notre version définitive en avril. Et donc, bah, dans la première version de notre article, celle qui est soumise, la bataille est très indécise. Et en gros, même si ce n'est pas le cœur de la conclusion, hein, le cœur de la conclusion est plus théorique, mais on glisse au passage que c'est équilibré et que c'est difficile de déterminer qui va l'emporter. Et le problème, c'est que dans la foulée, en janvier, Warner, donc qui est le studio hollywoodien un peu leader, annonce qu'il ne soutient plus que le Blu-ray et que désormais tous ses films ne sortiront plus qu'au format Blu-ray. Il est suivi par quelques autres studios, ce qui n'est pas très étonnant parce que ça envoie un signal fort. Et c'est un signal tellement fort, en fait, qu'en février, donc seulement quelques semaines après, Toshiba annonce l'abandon du HD-DVD. Si bien que nous, quand on a renvoyé notre article, la bataille était finie. Voilà. Donc, on s'y attendait pas, évidemment, à ce qu'elle se dénoue dans les 2 mois qui suivent la première version de notre article. Donc, ça, c'est pour l'anecdote. Mais vous voyez que ça s'est fait très vite. Et vous voyez, je vous avais dit que je reviendrais sur l'importance des fournisseurs de produits complémentaires, hein, dans ces batailles. Elle était déjà sensible dans la bataille du DVD. Puisque c'est quand même largement parce que les studios de cinéma soutenaient le standard de Toshiba que Sony et Philips ont cédé et se sont ralliés au compromis d'IBM. Et ben là, c'est encore plus net. C'est la Warner dit je ne ferai plus que du Blu-ray. Ils entraînent avec eux quelques autres studios, sachant que ceux de l'autre camp avait déjà dit, parce qu'il y avait quelques studios qui étaient uniquement HD-DVD, et ceux-là avaient déjà dit que bon, bah maintenant ils allaient faire les deux. Donc vous voyez, il y avait une faille, et cette faille, elle a probablement, alors il y a eu sûrement des discussions en coulisses, des choses comme ça, hein, mais néanmoins, la partie rationnelle et visible de la faille, c'est tout simplement que en comptant les lecteurs Blu-ray, il y avait pratiquement 4 fois plus de lecteurs Blu-ray déjà installés que de lecteurs HD-DVD. Et donc, forcément, il se vendait plus de films en Blu-ray que de films en HD-DVD, ce qui explique le revirement des studios de cinéma. Et donc, quand ils ont compris que les studios de cinéma a basculé, parce que ceux qui n'avaient pas encore basculé, ils allaient forcément le faire assez rapidement, puisque, eh bien, Toshiba a préféré ne pas faire comme justement Sony l'avait fait avec le Betamax et continuer à s'acharner, quitte à faire des pertes. Et donc là, ils ont jeté l'éponge. Donc, voilà, une bataille assez courte, mais du coup, qui n'est pas inintéressante pour autant. Et alors, bah on voit que la Sony semble quand même avoir appris un petit peu de ses batailles précédentes, puisqu'ils ont procédé autrement. Alors, on va, bah, comme à chaque fois qu'on change de chapitre, on revient un petit peu en arrière au niveau temporel, hein, même si bah, au fur et à mesure, évidemment, d'un chapitre à l'autre, globalement, on se rapproche de la période d'aujourd'hui. Et on va s'intéresser à un acteur qui n'est pas sans rapport avec le DVD. Tiens, justement, petite question, quel est le rapport entre Netflix et le DVD? Il va falloir que je mette des lots en jeu pour avoir des réponses à mes questions. Vous devez avoir peur de vous tromper, c'est pas grave de se tromper. Hein. Bon alors. Ah, allez-y. Oui.
C'est pas que initialement Netflix est un service de location de DVD.
Eh bien si, tout à fait. Donc voilà, il ne fallait pas craindre de vous lancer. C'est exactement ça. Donc, on va s'intéresser à Netflix. Alors, on va commencer par le contexte. Donc, on va remonter encore plus loin dans le temps, puisqu'on va, on va d'abord un peu brosser le contexte dans lequel est arrivé Netflix. Puis après, ben, on va voir un petit peu la première partie de l'histoire de Netflix. sachant que sa transformation radicale, on la gardera pour un chapitre ultérieur. Donc, en termes de contexte, hein, il y a, avec l'augmentation forte du parc installé de magnétoscopes, il y a une nouvelle activité qui s'était créée, qui était celle des vidéoclubs. Hein, on avait dit, si vous vous souvenez un peu, que dans un premier temps, le magnétoscope chez les particuliers, hein, pas chez les institutionnels, mais chez les particuliers, était principalement utilisé pour enregistrer, ce qui avait surpris les fabricants de magnétoscopes de l'époque. Mais à partir, on va dire, des années, autour de l'année 83, 84, peut-être, bon, ça a sûrement commencé un petit peu avant, mais on avait vu donc se développer fortement, hein, une activité de location de cassettes préenregistrées. Donc, c'est ces fameux vidéoclubs où on proposait toute une grande bibliothèque de films et où on était abonné, puis on venait, et puis on payait pour quelques semaines de visionnage de la cassette, puis on devait la ramener. Aux États-Unis, puisque c'est au début Netflix n'opérera qu'aux États-Unis, hein, il y avait un géant dans le domaine, il s'appelait Blockbuster, et il avait à l'époque à peu près, à l'époque c'est dans la deuxième moitié des années 90. Il avait atteint 6 000 magasins et 65% de parts de marché aux États-Unis. Donc le principe, hein, j'ai commencé à le dire. C'est pas quelques semaines, pardon. Hein, c'est, il faisait tourner beaucoup plus vite puisque l'idée c'était qu'on regarde le film le soir même ou éventuellement le lendemain. Ça n'a jamais été 2 ou 3 semaines. Ça c'est ma déformation universitaire avec les durées d'emprunt des ouvrages dans les bibliothèques. Donc là c'est beaucoup plus court et on paye quelques dollars, sachant que dans certains cas, il y avait une formule d'abonnement plus on payait quand même la location, et dans la majorité des cas, il n'y avait pas d'abonnement et on payait la location. Alors, c'était pas cher, hein. Par contre, si jamais on la rendait en retard, alors là, ça faisait exploser la facture. Et c'est pas totalement illogique, hein. Puisque en fait, évidemment, les vidéoclubs n'achetaient pas seulement la cassette en tant qu'aspect matériel, ils achetaient une cassette qui n'avait pas la même licence que celle des particuliers, c'est-à-dire quand on achetait une cassette ou quand on achète aujourd'hui un DVD ou un lecteur Blu-ray, on l'achète pour un visionnage privé. Et eux, évidemment, avaient une licence différente qui les autorisait à louer la cassette. Si bien qu'évidemment, ils payaient la cassette à un prix bien plus élevé que ne le payait un particulier. Donc, c'était en général plus de 100 $ par cassette. Et donc, ça voulait dire que la rentabilité des cassettes dépendait du nombre de fois où elles étaient louées. Et donc, évidemment, quelqu'un qui, pour le coup, la garde 15 jours, s'il y a peu de pénalités, ça veut dire qu'on perd toutes les locations qu'on aurait fait dans l'intervalle. Donc, pour vraiment, non seulement se rembourser de la perte de location, mais en fait, il faisait payer beaucoup plus cher que juste la perte de la location parce qu'il voulait décourager le fait de rendre en retard. Notamment parce qu'il y avait un problème classique qu'on retrouvera un peu plus tard avec Netflix, qui est que ils étaient obligés d'avoir une large bibliothèque de films parce que c'est ce qui faisait leur attractivité, hein, mais qu'évidemment, il y avait quelques films, justement des blockbusters, qui étaient très très demandés, Alors, ils avaient plusieurs cassettes du même film, mais généralement pas assez, si bien que ils étaient en permanence un peu en manque de ces cassettes-là. Et puis à côté, vous aviez des films qui étaient très très peu loués. Et donc, les pénalités de retard, elles étaient les mêmes dans tous les cas, mais l'idée, c'était surtout d'éviter que des films très pris soit phagocyté par quelques personnes et que du coup ça génère énormément de frustration chez ceux qui n'arrivent jamais à récupérer la cassette. Alors, il y a deux fondateurs, je ne me souviens plus du nom de l'autre, mais il y en a un qui a plus d'importance, c'est Reed Hastings. Alors, dans le storytelling de Netflix, l'idée serait née de deux éléments. Alors, je le donne tel quel parce que c'est réaliste et c'est assez finalement symptomatique de la manière dont naissent souvent les idées entrepreneuriales, hein. Lui, il prend une très grosse pénalité, il oublie une cassette dans un coin et puis du coup, il est extrêmement surpris de sa pénalité. Plusieurs dizaines de dollars. Et puis il se dit, c'est quand même bizarre ce système parce que moi, mon club de sport, j'ai un forfait, je paye mon forfait et puis après, je paye pas pour chaque activité que je fais. Donc c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas un système forfaitaire dans les vidéoclubs. Alors là où je suis prudent et que je dis tel que c'est présenté par le storytelling, parce que là on a un peu l'impression qu'il imagine tout de suite ce qui sera le business model de Netflix plusieurs années après sa naissance. Donc c'est là où je suis un peu prudent parce que par exemple au début chez Netflix il n'y a pas de forfait mensuel. Donc c'est pour ça que voilà, prudence, mais en tout cas, bon, c'est pas irréaliste et je trouve que si c'est vrai, ça coïncide assez bien avec la façon dont d'autres idées entrepreneuriales sont nées. Alors au passage, pour faire une mini parenthèse un peu plus théorique, hein, c'est vrai que c'est souvent d'expérience personnelle que l'on va tirer une idée de nouvelle entreprise. Pour autant, c'est pas, on peut tout à fait le faire par une démarche spécifique. Et là, quand on pense à trouver un positionnement stratégique très original, il y a eu des auteurs au début des années 2000 qui ont un peu marqué les esprits, notamment par un côté marketing, puisqu'ils ont inventé un concept, celui de stratégie océan bleu, qui a été largement repris. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est qu'ils proposent des modes de pensée, des démarches qui permettent de trouver des idées d'innovation stratégique potentielle. Après, elles ne sont pas forcément toutes viables, elles ne sont pas, attention, hein, mais avec ce type de raisonnement, on peut essayer de trouver un positionnement qui est assez nettement différent de celui des concurrents actuels sur le marché. Ce qui va être le cas de Netflix, hein. C'est pour ça que j'en parle à cet endroit-là, même si eux, a priori, n'ont pas utilisé ce type de démarche. Et donc, ces deux auteurs, hein, qui sont à l'origine du concept de stratégie océan bleu, s'appellent Kim et Mo Borgne, et ils proposent dans leur ouvrage 6 pistes pour imaginer ces innovations stratégiques. La première, alors qu'ils appellent explorer des solutions alternatives en matière de produits, mais je trouve ça un peu vague. Ça consiste à essayer de repérer des situations où vous avez plusieurs offres, mais qui répondent de façon insatisfaisante à un besoin, et qui donc laisse la place éventuellement à réfléchir à une offre qui combinerait le meilleur, en gros, des offres existantes. Alors, ils prennent un exemple assez original. Imaginez que vous soyez riche. Bon, après tout, ce n'est pas forcément le plus désagréable comme imagination. Et donc, bah, pour vous, le temps, c'est beaucoup d'argent. Hein, quand vous perdez une heure, c'est des milliers d'euros. Oui, vous êtes très riche ou très bien payé. Et donc, bah, vous avez deux solutions. Bon, on va prendre un exemple purement imaginaire. Vous êtes un joueur de football, vous jouez en Espagne, et vous voulez vous faire un petit week-end en Suède, à Stockholm. Toute ressemblance avec des faits réels serait totalement fortuite, bien évidemment. Vous avez le choix entre deux solutions insatisfaisantes. Première solution, vous prenez l'avion de ligne, un avion de ligne. C'est tout. Il y a des lignes Madrid-Stockholm, probablement. Et donc, mais c'est pas tout à fait. Alors, au niveau du prix, c'est très satisfaisant, parce que pour vous, un billet, même en première classe, ce n'est pas le problème. Mais par contre, ce n'est pas du tout satisfaisant en termes de perte de temps. Parce que bah, vous allez devoir arriver en avance à l'aéroport. Bah, peut-être que l'avion, enfin, il y a probablement pas 12 avions par jour Madrid-Stockholm. Puis il n'est pas question pour vous de faire une escale. Hein. Donc, bah, peut-être que l'avion qui vous permettrait d'être à temps à Stockholm, bah, il décolle à 14 heures de Madrid. Du coup, vous arrivez avant 17 h à Stockholm, alors que votre soirée, elle commence à 20 h. Donc vous perdez 3 heures. 3 heures avec votre salaire, c'est beaucoup. Donc c'est pas satisfaisant. Et puis, alors l'autre possibilité, c'est que vous ayez un jet privé. Alors, de point de vue confort, c'est très satisfaisant, puisque bah, du coup. Pour peu qu'il y ait un créneau dans un aéroport, bah le jet, vous direz je souhaite partir à 18 h et arriver à 20 h à Stockholm, et ben ok, on vous fera décoller à 18 h, donc vous décollez à 18 h au lieu de 14 h. Et puis vous passerez pas, vous ne ferez pas la queue pour des contrôles, etc. Donc du point de vue confort et gain de temps, c'est l'idéal. Par contre, alors je laisse de côté le côté écologique, hein, mais il est évident que ce n'est pas non plus l'idéal du point de vue écologique. Parce que faire voyager une personne ou un faible nombre de personnes dans un avion, c'est quand même assez, comment dire, extrême en termes de. Il ne faudrait pas que tout le monde fasse ça. Donc je laisse de côté, puisqu'ici ce n'est pas l'objet, mais. Il n'empêche que ça pose aussi cette question-là, mais là, ici, le problème, c'est surtout que ça coûte quand même assez cher un jet privé. Hein, déjà à l'achat, alors j'avais regardé, pas pour moi, hein, mais juste, bah, justement pour alimenter cet exemple-là, eh bien, un Falcon de Dassault, bah, faut compter, j'avais vu le. Un des modèles, mais c'était pas le plus, enfin c'était pas toutes options, etc. Hein, ben, il était quand même à 75 millions d'euros. Donc je sais pas vous, mais ça peut quand même décourager certains. Et donc bon, même pour des personnes très fortunées, là pour le coup, faut quand même les sortir. Hein. Et puis après, il vous coûtera cher en maintenance, hein, il va falloir lui trouver une place de parking, et puis au passage, il vous servira 1% du temps maximum. Le reste du temps, Bah, il va être dans un hangar, il va vieillir dans son hangar, il y aura des contrôles à faire, évidemment, entre les vols, mais aussi peut-être tous les ans, alors qu'il aura très peu volé. Vous avez bien sûr payé la place dans le hangar. Bah, pour pouvoir partir à tout moment, il faut que vous ayez des membres d'équipage. Alors peut-être vous êtes obligé de vous payer les membres d'équipage toute l'année. Enfin, vous voyez que le coût est quand même extrêmement élevé. Et donc, bah, constatant ça, il y a une entreprise américaine qui s'est formée et qui fait de la propriété partagée de jets. Donc en fait, vous n'achetez pas un jet complet, vous achetez bah, 10% de temps d'un jet, par exemple. Donc ça vous coûte 10 fois moins cher, et à l'achat et en maintenance. En plus, c'est plus étalé parce que je pense que ça prend plus la forme d'un loyer que d'un que y a probablement un droit d'entrée, mais vous payez probablement même pas 10% au départ du coût d'un jet. Et puis, bah, comme la société NetJets a un parc de jets relativement important au total, bah, elle peut faire en sorte que dans l'immense majorité des cas, quand un de ses clients demande un jet avec un équipage, eh bien, il l'aura. Donc, s'il veut partir à 18 h d'un aéroport secondaire autour de Madrid, eh ben, notre joueur de football l'aura probablement, et ce sera vraiment pas de chance. Il faudrait vraiment que tous les propriétaires de jets veulent voler en même temps, pour qu'on ne trouve pas, parce qu'évidemment, avec le, il y a un système de mutualisation, vous êtes normalement plutôt propriétaire d'un des jets, mais si votre jet est utilisé et qu'il y a d'autres jets qui ne le sont pas, il y a des systèmes qui font que bah, on vient vous chercher quand même. Donc, et donc, vous voyez, on se positionne entre deux offres sur un créneau où, parce qu'on a vu qu'il y avait déjà des offres, mais qu'elle ne répondait pas de façon satisfaisante aux besoins. Deuxième piste qu'il suggère, explorer les différents groupes stratégiques d'un secteur pour quelque part se situer entre deux d'entre eux. Un groupe stratégique, hein, c'est un concept qu'on doit à Michael Porter, comme pas mal de concepts en stratégie. Qui consiste à considérer que le secteur d'activité n'est pas toujours le bon, comment dire, le bon niveau d'analyse en stratégie. Et que par exemple, bah, OK, c'est vrai, Porsche et Renault font des voitures. Pour autant, on pourra difficilement dire que Porsche est un concurrent de Renault. Et donc, constatant ça, ben, on crée des groupes qui correspondent à des acteurs d'un secteur qui sont à peu près homogènes. Donc, par exemple, vous allez avoir les constructeurs généralistes, Renault, Stellantis, Toyota, etc. Donc, ça forme un groupe stratégique. Porsche, lui, il est dans un groupe stratégique voiture de sport, où on va retrouver Ferrari, Lamborghini, etc. Et puis va y avoir un groupe stratégique berline de luxe. Vous allez retrouver Mercedes, BMW, Audi. Alors c'est dans le monde automobile d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué par le fait que beaucoup de ces marques sportives ou berline haut de gamme sont des filiales de groupes plus importants. Alors c'est pas le cas de Mercedes ou BMW, mais c'est le cas d'Audi. Mais bref, vous voyez la logique. Et donc, alors j'ai choisi l'exemple de l'automobile parce que souvent il parle assez bien. Tout le monde voit à peu près que Porsche n'est pas un concurrent direct de Renault. Mais par ailleurs, il se trouve que l'exemple qu'ils prennent, eux, de cette piste, est aussi une voiture, en fait, enfin une marque. Ils prennent l'exemple de Lexus, qui se situe un peu à cheval entre le groupe stratégique constructeur généraliste, puisqu'il emprunte beaucoup à Toyota, hein, et le groupe stratégique berline de luxe, hein, puisque du coup, c'est positionné comme la marque de luxe du groupe Toyota. Et clairement, ça visait le segment de Mercedes et BMW. Donc, vous voyez, ça se situe un peu entre les deux. Vous pourrez considérer, mais c'est moins récent que Audi aussi, et un peu entre les deux, du fait qu'il emprunte énormément de composants à Volkswagen. Donc, autre piste, il constate que dans la chaîne de ceux qui vont être les acheteurs, de ceux qui vont être les prescripteurs, de ceux qui vont être les utilisateurs, il y a assez souvent une catégorie qui va être un peu négligée. C'est-à-dire qu'assez souvent, on va se concentrer sur une ou deux de ces catégories et ça peut être au détriment d'une autre. Et donc là, l'exemple qu'il prend, c'est sur le marché de l'insuline pour les diabétiques. Et pendant longtemps, les fabricants d'insuline ont surtout essayé de répondre aux exigences des médecins, donc des prescripteurs et des hôpitaux. Et donc, on surtout travaillé sur le produit lui-même en rendant l'insuline de plus en plus pure, de manière à ce qu'elle ait un effet le plus homogène, le plus rapide possible, etc. Et puis, d'ailleurs, à force, elle était devenue tellement pure qu'il n'y avait plus vraiment de moyens de différenciation entre les laboratoires pharmaceutiques qui en faisaient. Et du coup, c'était devenu un produit, ce qu'on appelle parfois en anglais commodity, c'est-à-dire une marchandise sur laquelle il n'y a plus de moyens de différenciation fort. Et du coup, dans ces cas-là, c'est le prix qui va devenir le facteur concurrentiel essentiel. Et ben, dans ce contexte-là, il y a une entreprise danoise de mémoire. Qui va raisonner un peu autrement et qui, au lieu de se mettre avant tout à la place du médecin et de ce que veut le médecin, va se mettre avant tout à la place du patient. Et là, du coup, ils vont être beaucoup plus attentifs aux deux problèmes clés que les patients relevaient. C'est le fait que parfois ils se trompaient un peu dans la dose. Et puis surtout que s'injecter de l'insuline, c'était pas discret. Il fallait partir avec son matériel, aller dans des toilettes parce qu'on n'allait pas à table, par exemple. Enfin, je sais pas si on s'injecte de l'insuline à table, mais on n'allait pas devant d'autres personnes se mettre à s'injecter quelque chose, surtout pas en public où on peut se demander ce que vous vous injectez, hein. Eh ben, ils ont créé des sortes de. Vous pouvez aller voir sur leur site. C'est des seringues, mais un peu particulières, qui ont comme la forme d'un gros stylo, et dans lesquelles il y a des doses qui sont pré-intégrées. Et donc, ça a un double effet où vous n'avez pas besoin de remplir une seringue, etc., parce qu'elle est pré-remplie. Donc, en quelques secondes, vous pouvez vous injecter. Déjà, ça peut permettre d'agir en cas de début de malaise plus vite, hein. Et puis, ça peut être beaucoup plus discret, du coup, hein, puisque c'est fait très rapidement. Et par ailleurs, le système fait que vous savez que si vous faites, je ne sais pas moi, trois impulsions, vous êtes injecté tant je sais pas comment on calcule d'ailleurs, centilitres ou. En tout cas, ça permet de fiabiliser aussi la dose. Donc, vous voyez, là, la piste, c'est vous dire, OK, mais c'est vrai que jusque-là, on répond surtout aux besoins de ces acteurs-là, parmi les parties prenantes d'un produit. Peut-être que en répondant mieux à telle autre catégorie, on trouvera un positionnement original. Et Novo Nordisk est devenu le numéro un mondial de l'insuline. Quatrième piste, il y en a six. Donc voilà, je l'ai dit au début, mais vous ne disiez pas, tiens, il est en train d'en égrener, j'espère qu'il n'y en a pas 57. Alors là, l'exemple aussi est très intéressant. D'abord, je le trouve parlant, et ensuite, il rappelle que le fait d'appliquer ce type j'allais dire recette. J'essaye de trouver un autre. Il y a un côté un peu recette, hein, chez Kim et Mauborgne, et ne garantit absolument pas le succès, hein, puisque, en l'occurrence, l'entreprise qu'ils prennent comme exemple dans leur ouvrage a disparu depuis. Et donc c'est un fabricant de bus qui était essentiellement présent en Amérique du Nord, hein, c'est pour ça que ça vous dit probablement rien, Nabi. C'est pas seulement parce qu'ils ont disparu depuis, c'est aussi parce que de toute façon, même à cette époque-là, ils n'étaient pas présents en Europe. Et donc, je trouve que l'exemple parle mieux là aussi que la façon de le dire, explorer des produits et services complémentaires pour raisonner en termes d'offres globales. En fait, Nabi donc fournissait des bus. Et sur le marché des bus, c'est comme sur beaucoup d'autres produits, hein, vous avez des bus haut de gamme qui sont très chers, et puis vous avez des bus plus basiques, qui n'ont pas les éléments de confort et qui sont nettement moins chers. Eh bien, Nabi proposait des bus basiques, mais pas au prix les plus bas. Et avec un positionnement comme ça, ils ont réussi à faire une belle percée sur le marché des bus aux États-Unis. Alors là, il y a deux hypothèses. Soit les compagnies de bus aux États-Unis sont totalement irrationnelles, soit il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Bon, je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander. Quelle est quelle hypothèse est la bonne? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les bus de Nabi étaient conçus pour coûter le moins possible en termes de maintenance. Tout était fait dans le bus, que ce soit le moteur pour qu'il dure longtemps et que les pièces soient le moins possible à changer, que ce soit les matières utilisées pour les sièges, etc., pour que ça ne se dégrade pas vite, etc. Tout était conçu dans les bus Nabi pour que les coûts de maintenance d'un bus sur l'ensemble de sa vie soient les plus bas possibles. Or, les coûts de maintenance d'un bus sur l'ensemble de sa vie, ben, ça représente une part très importante du coût total. Probablement plus, je ne connais pas les chiffres, hein, mais probablement plus que son prix d'achat. Et donc ça, c'est le premier aspect. Après, si vous allez voir des compagnies de bus et que vous dites, voilà, mon bus, il est vraiment basique en termes de confort. Mais je le vends pour le prix d'un bus moyen haut de gamme, mais je vous promets, vous allez économiser de l'argent par la suite, ça risque d'être quand même compliqué. Alors en fait, et c'est là où arrive le raisonnement en termes d'offre globale, c'est de dire bah, finalement, ce que veulent les compagnies de bus, c'est pas d'être propriétaire de bus. C'est d'avoir à disposition des bus qui fonctionnent. Et donc, moi, Nabi, je vais leur proposer une location de bus en état de fonctionnement, tout compris. Donc, ça veut dire maintenance comprise. Et là, évidemment, bah, vous êtes l'acheteur de la. Enfin, vous êtes le dirigeant d'une compagnie de transport local. Vous pouvez très facilement, enfin relativement facilement, comparer le coût complet de vos bus actuels, maintenance comprise, au loyer que vous propose Nabi. Et le loyer de Nabi est compétitif puisqu'ils ont conçu leur bus pour que les coûts de maintenance qu'ils prennent en charge soient les plus faibles possibles. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit au passage de plus en plus, hein, le fait de proposer un service complet plutôt qu'un produit. Hein, j'avais eu des réunions pour d'autres raisons chez Safran. Et par exemple, chez Safran, vous pouvez vous acheter un train d'atterrissage. Vous pouvez aussi vous acheter 5 ans de train d'atterrissage en état de fonctionnement. C'est-à-dire que dans ces cas-là, Safran va installer son train d'atterrissage, va en assurer un contrôle régulier, va assurer la maintenance, va changer les pneus s'il faut changer les pneus pendant la durée du contrat. Cinquième Piste. Pour la plupart des produits, vous avez soit une dominante fonctionnelle, c'est-à-dire que vous l'achetez avant tout pour des raisons rationnelles, on va dire, pour le service qu'il vous rend. Et puis, vous avez des produits qui jouent plus sur l'émotion, l'achat d'impulsion, qui jouent sur des critères moins rationnels. Et donc, il donne l'exemple de Body Shop, donc qui est une entreprise de cosmétiques. Dans la cosmétique, vous voyez bien qu'on joue quand même plus sur l'émotionnel que sur le rationnel. Et eux, bah, ils avaient un positionnement très original, effectivement, puisque ils avaient des emballages très sobres. Enfin, ils ont, hein, ils existent toujours. Ils ont des emballages très très sobres, avec des noms qui généralement sont justement des noms fonctionnels, c'est-à-dire qui sont pas des marques faisant rêver, mais plutôt des noms qui du coup sont pas des marques parce qu'ils sont pas distinctifs, mais qui expliquent ce que fait le produit. Crème hydratante, par exemple. Et donc voilà, et de ce point de vue-là, ils se sont très nettement distingués des marques de cosmétiques classiques, et ils ont trouvé leur public. Ils ne sont pas devenus majoritaires, hein, mais ils ont trouvé leur public. Dans l'autre sens, ils ont un exemple qui est moins convaincant, je trouve, d'un cimentier qui réhabilite une tradition de fête au moment de la pose de la première pierre. Je le trouve donc moins convaincant parce que je ne pense pas que des promoteurs immobiliers, enfin plutôt des architectes, des maîtres d'ouvrage, choisissent un cimentier parce qu'il va organiser une fête. Donc voilà, je suis plus circonspect. Moi, par contre, j'avais rencontré un exemple avant de lire le livre de Kim et Bob Born, mais après coup, je me suis dit, ah, mais ça correspond mieux, avec une petite entreprise française qui vend des papiers. Donc, après, a priori, le papier, on est plutôt vraiment effectivement dans le fonctionnel. Mais alors, eux, ils vendent du papier de luxe et original. J'essaierai de penser à vous mettre une slide où j'avais repris des éléments de leur site web pour montrer un petit peu le positionnement. Et d'ailleurs, le slogan qu'il y avait, je n'ai pas vérifié si c'était toujours le même cette année, mais a priori, ça ne change pas trop, hein. Alors d'abord, vous avez la photo du patron, Monsieur Thibierge, avec un beau costume, etc. Donc, il y a tous les codes du luxe, hein, la personnalisation, et puis vous avez écrit « Tout commence par un regard, une émotion ». Avouez que quand vous achetez votre amette de papier, vous ne pensez pas spécialement de cette façon-là. Si je me trompe, vous le dites, mais je ne pense pas que je vais avoir une foule de personnes qui vont me dire si, si, moi je. Mais simplement, eux, ils font des papiers très originaux, avec des textures spécifiques, avec des couleurs spécifiques, et leurs principaux clients, ce sont les marques de luxe. Parce que si vous organisez une soirée VIP Guerlain avec vos meilleures clientes dans la haute couture, vous n'allez pas les inviter avec un vieux carton d'invitation ordinaire, hein. Il va falloir absolument qu'il y ait un cachet particulier pour que vous soyez à la hauteur de ce qu'on attend d'une marque de luxe. Une marque de luxe étant censée proposer une expérience utilisateur unique. Donc ils ont trouvé leur clientèle comme ça. Et là, on est vraiment sur un c'est vraiment leur positionnement. Donc, c'est pas juste qu'ils organisent une petite fête à côté. Ils jouent vraiment structurellement sur l'émotion, alors que leur produit, le papier, est un produit fonctionnel. Alors, par contre, bah, c'est une petite entreprise. C'est normal que Kim et Mauborgne n'en aient jamais entendu parler, hein. Moi, c'est un peu le hasard. Je ne sais plus comment j'en avais entendu parler. Et en tout cas, je ne l'avais pas rencontré pour ça à l'origine, Monsieur Tiberge. Hein, je l'avais rencontré parce que j'étais curieux de connaître comment ils protégeaient en termes de propriété intellectuelle leur création. Essentiellement par dessin et modèle. Mais on n'a parlé pour l'instant que du brevet. Donc, vous n'êtes pas encore spécialiste des dessins et modèles, mais vous le saurez. Vous ne finirez pas l'année sans connaître ça. Enfin, bah, la dernière est un peu moins originale, hein, puisque c'est la logique de la prospective, hein, qui n'est pas du tout inventée par Kimemo Borgne. Hein. Enfin, d'ailleurs, ils ne prétendent pas avoir inventé les autres six pistes. Mais là, bon, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus classique. Et l'idée, c'est de détecter des signaux faibles, des débuts de tendance dont on pense que ça pourrait devenir être des tendances de fond, que ça devrait se développer fortement à l'avenir. Et il donne l'exemple de l'iTunes Music Store, qui est créé en 2003 par Apple, à un moment donné où bah, l'achat de musique en ligne n'existe quasiment pas. Simplement, bah, il constate que d'un côté, il y a de plus en plus de piratage de musique en ligne, et que du coup, ben, il y a un mouvement vers la dématérialisation de la musique, que les utilisateurs n'y voient pas que l'avantage d'être gratuit, mais qu'ils y voient aussi l'avantage ben, de choisir vraiment ben, les morceaux qu'ils vont récupérer sur leur disque dur, alors que ben, quand on achète un CD, on achète tout l'album, même si on n'aime que deux des chansons, des musiques de l'album. Hein. Donc, bah, il pressente que va y avoir une partie de la population qui pourrait être intéressée par le côté dématérialisé, parce que c'est commode à gérer, parce qu'on peut faire du morceau par morceau, mais qui néanmoins veulent rester dans la légalité. Et donc, bah, il lance à ce moment-là l'iTunes Music Store. Donc voilà pour nos petites pistes pour trouver des idées d'innovation stratégique. Et donc on récupère nos amis de chez Netflix. Donc bah, voilà, selon les sources, donc il aurait eu idée très tôt de faire un jour du streaming, il aurait eu donc dès le début l'idée du forfait, mais en réalité au début le modèle d'affaires de Netflix n'est pas si original que ça, mais il est quand même original, très clairement, par rapport à celui de Blockbuster. Les deux éléments qui vont le distinguer, c'est l'absence de magasins physiques. Hein, puisque les blockbusters sont des magasins de location, mais ce sont des magasins. Et puis, le passage de la cassette VHS au DVD. Hein, alors que chez Blockbuster, c'est bien des cassettes VHS qu'on loue. Au passage, c'est vraiment un pari risqué dans le contexte dans lequel on est à l'époque. Hein. Parce que bah, finalement, on avait donné un petit peu les chiffres. Hein. Certes, le marché du DVD a décollé relativement vite, mais enfin bon, à ce moment-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de magnétoscopes dans les foyers qu'il n'y a de lecteurs DVD. Et puis, le e-commerce lui-même est peu développé hein, encore. On est en 97, ça commence à décoller, mais enfin, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que c'est devenu par la suite. Donc, je l'ai dit dans l'autre sens, mais. Alors, ceci étant, Hastings, de ce point de vue-là, a un avantage, c'est qu'il sait probablement hein, que son modèle ne sera pas rentable dès le début. Et si c'est un bon entrepreneur, il s'attend probablement à ce qu'il ne trouve pas tout de suite le bon business model. Voilà. Il n'a pas besoin d'avoir une entreprise qui est rentable tout de suite. Alors pourquoi? Parce que, il n'en est pas à sa première entreprise. Il avait créé une entreprise de logiciels qui, en fait, faisait des logiciels de débogage des logiciels. Donc, et bah, qu'il avait bien revendu. Et du coup, il avait une petite fortune de 75 millions de dollars. Donc, vous voyez que bah là, quand on avait dit qu'au niveau du financement des startups, souvent, on commençait par du love money, et puis voilà, plus l'apport des créateurs et tout ça, ça faisait quelques dizaines de milliers d'euros pour démarrer. On voit, alors je ne sais pas, il n'a probablement pas mis tout de suite les 75 millions de dollars dans Netflix, hein, mais on voit qu'il a des réserves et qu'il peut mettre des moyens beaucoup plus importants tout de suite. Ça fait partie des cas où, dès le premier tour de table, vous allez avoir des moyens qui sont conséquents. Et lui, en plus, à titre personnel, peut remettre derrière assez facilement. Ah ben voilà, je ne me souvenais plus du nom de son associé. Le voilà, le nom de son associé. Et donc, le premier service Netflix, c'est vous choisissez quel film vous voulez sur Internet, puisque c'est du e-commerce. Vous payez par carte bancaire sur Internet, et puis on vous envoie le film par la poste, et puis ensuite, et avec une enveloppe prépayée pour le renvoyer à Netflix. On pouvait aussi, si on avait trouvé le film sublime et qu'on avait envie de le revoir, on pouvait aussi choisir de ne pas le renvoyer et à ce moment-là, bah, de l'acheter. Hein, donc on complétait la somme et du coup on pouvait le garder. Au passage, au tout début, c'était pas du tout rare que... alors j'ai pas de pourcentage, hein, et je sais pas si... Il y a eu à l'époque des statistiques très précises, en tout cas publiques, hein. Mais en tout cas, visiblement, c'était une option qui était assez souvent choisie. Et il faut dire qu'on est au début de la vie du DVD, hein, et donc bah, les quelques possesseurs de lecteurs DVD, c'est aussi le moment où ils se disent bah, c'est quand même de bien meilleure qualité à regarder que sur nos cassettes VHS, et assez souvent, bah, sur les films qu'ils préfèrent, enfin, ils vont commencer à se reconstituer une deuxième vidéothèque à côté de leur vidéothèque en VHS, ils vont commencer à se constituer une vidéothèque en DVD. Donc du coup, vous voyez qu'on est assez loin du streaming puisqu'on est sur de la location, film par film, pas du tout forfaitaire, hein, c'est d'où mes petits doutes sur est-ce que vraiment, dès le début, il a eu l'idée du forfait. Bon. Et avec finalement une situation où même la location n'est pas la seule activité, puisque in fine, il y a pas mal de ventes. Alors, l'atout qu'avait Netflix par rapport à des chaînes comme Blockbuster, c'est que bah, Blockbuster, au total, c'est énorme et ils ont des stocks de cassettes gigantesques. Mais par contre, bah, chaque magasin est limité par son espace. Donc, bah, le choix concret qui s'offre au client Blockbuster, bah, c'est celui du Blockbuster de son quartier. Alors, je ne sais pas s'il y avait des possibilités d'emprunt d'un Blockbuster à l'autre, mais c'est forcément dans ces cas-là, au minimum, c'est beaucoup plus long puisqu'il faut expédier la VHS d'un magasin à l'autre, etc. Mais je pense même que, enfin, je suis même pas sûr du tout que ce soit, que ça ait été possible. Alors que bah, chez Netflix, bah, c'est centralisé. C'est comme s'ils avaient un seul magasin, mais énorme. Alors après, évidemment, ils vont avoir le même problème que tous les autres vidéoclubs, hein, c'est-à-dire qu'il y a des films qui sont très très demandés et sur lesquels il y a une pénurie de DVD. Et puis d'autres qui passent leur temps dans leur stock. À partir de là, et là, vous voyez Par contre, je pense commencer à se dessiner certains éléments de ce qui du Netflix d'aujourd'hui, hein, c'est que du coup, ce qui est encore une start-up, hein, et qui a une culture qui vient du monde de l'informatique, hein, c'est pour ça que alors c'est pas seulement pour ces 75 millions de dollars que je vous ai indiqué que Reed Hastings avait revendu une start-up informatique. C'est que, par ailleurs, c'est une culture informatique. Et donc, bah, ils utilisent leurs compétences en informatique, hein, et ils mettent au point un algorithme de recommandation. Si vous avez Netflix, ça vous dit probablement quelque chose. Et alors, cet algorithme, il n'est pas uniquement fait en fonction des goûts du consommateur. Alors, il n'est pas aussi perfectionné que les algorithmes actuels de Netflix, mais il tient compte des locations passées. C'est-à-dire, voilà, les DVD sont par grandes catégories. Et puis, si vous avez loué des films d'horreur dans le passé, bah, il vous proposera des nouveaux films d'horreur. Mais dans la manière dont il recommande, dans l'algorithme, il est aussi tenu compte de la disponibilité des films. Donc, toute chose égale par ailleurs, l'algorithme va plutôt vous proposer des films qui ne sont pas loués souvent, ce qui va du coup faire en sorte qu'ils sont loués plus souvent. Donc, ça ne résout pas le problème, hein. Ça fait pas d'un film très peu connu, ça va pas le faire être loué autant que le dernier. On va dire à l'époque Spielberg ou donc ça résout pas complètement le problème, mais ça l'atténue. Et vous voyez qu'ils atténuent le problème en utilisant leurs compétences informatiques et que déjà il y a donc un système de recommandation. Et puis bah, malgré tout, ça marche pas super fort. Donc, du coup, ils vont complètement modifier leur modèle d'affaires et notamment leur modèle de revenus, puisque ils vont, là, cette fois, basculer sur du forfaitaire. Donc, ils vont passer à un abonnement à 20 dollars par mois. Et pour les 20 dollars, vous avez le droit en permanence d'avoir 3 DVD chez vous. Alors là, c'est assez astucieux, parce que ça contourne complètement le problème des pénalités de retard. Parce que, bien que Reed Hastings soit, je dirais, vacciné contre les pénalités de retard, vu ce qui lui était, semble-t-il, arrivé. Néanmoins, dans son premier modèle, Netflix était bien obligé d'appliquer aussi des pénalités de retard. Sinon, vous auriez eu des DVD qui seraient restés 3 semaines, un mois et demi chez certaines personnes, qui donc n'auraient plus pu être loués sans compensation. C'était pas possible. Alors que là, l'idée, c'est que dans l'abonnement, vous avez le droit d'avoir 3 DVD en permanence chez vous. Si jamais vous ne retournez pas un DVD, eh bien, vous ne pouvez pas en prendre d'autres. Donc c'est à vous de voir, hein, mais si vous voulez voir beaucoup de films, bah, de toute façon, ça vous incitera à renvoyer vos DVD, puisque vous êtes bloqué par ce chiffre de 3. Et ça donne malgré tout de la flexibilité, parce que si finalement vous êtes trop fatigué pour voir le film dans les 48 heures, bah, vous dites bah, tant pis, je le garde un jour de plus et y a pas de conséquences. Ils utilisent là aussi leurs compétences en informatique pour mettre au point un système de file d'attente qui fait que quand vous louez sur les 3 que vous avez, il y en a un qui n'est pas disponible, donc vous en renvoyez un, vous n'en avez plus que 2, et vous voulez louer un DVD qui n'est en ce moment pas disponible, eh bien à ce moment-là, vous avez un système automatique de file d'attente. Qui va vous envoyer le DVD dès qu'il est disponible. Alors, ça avait fait à l'époque un mini scandale, un mini parce que bah, Netflix n'est pas encore une entreprise très connue, hein, donc ça risquait pas de faire la une des médias, hein, mais il y avait eu visiblement quelques protestations à l'époque. Bon, puis les forums, etc., existaient quand même déjà. Hein. Donc, puisque certains s'étaient aperçus qu'en fait, le système de file d'attente n'était pas tout à fait juste. C'était pas tout à fait premier arrivé, premier servi. Il avait tendance à favoriser ceux qui louaient le moins. Alors, louaient le moins, ils avaient toujours leurs 3 DVD, mais justement, qui faisaient le moins tourner leurs DVD. Et la raison de ça, c'est qu'évidemment, si vous faites peu tourner vos DVD, c'est que vous en re regardez peu. Et si vous en regardez peu, bah vous allez probablement un jour ou l'autre vous dire, ah, au fait, je paye 20 $ par mois pour avoir toujours les 3 mêmes DVD sur ma table de salon. Ça ne les vaut pas. Ça n'est intéressant que si ça vous permet de voir beaucoup de films, de payer 20 $ par mois. Si c'est pour avoir 3 DVD, bah vous payez les 3 DVD. Donc, du coup, les personnes qui ne louaient, ne faisaient pas, comment dire, tourner rapidement leurs DVD étaient donc des consommateurs qui étaient le plus susceptibles d'arrêter leur abonnement. Et donc, Netflix avait mis en place un système pour les favoriser, parce que les gros loueurs, eux, a priori, ils allaient de toute façon les garder, même s'ils attendaient un peu plus longtemps leur film. Bon, du coup, ils avaient quand même, a priori, corrigé le biais volontaire, parce que voilà, leurs clients s'en étaient aperçus. Mais bon, voilà, c'est à la fois une anecdote et en même temps, ça montre assez bien l'esprit d'optimisation informatique qui anime Netflix dès le début. Et donc, on voit bien que quelque part, Netflix va modifier la hiérarchie des facteurs clés de succès, quelque part. Alors, sauf que c'est pas encore un acteur majeur. Hein. Alors, pour l'instant, c'est pour ça que j'ai écrit simplement des compétences. Hein. Blockbuster, c'est avant tout une compétence de vente, en termes de ressources, c'est avant tout un réseau de magasins. Et puis, il y a une énorme logistique derrière, puisqu'il y a, au total, il gère des millions de cassettes. Voilà. Et chez Netflix, on a avant tout une compétence informatique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a zéro compétence logistique, hein, au passage. D'ailleurs, comme il faut quand même livrer rapidement les DVD, que les États-Unis, c'est grand, du coup, ils vont mettre en place un système d'entrepôt qui garantira une livraison en 24 heures à l'ensemble de leurs clients américains. Mais au passage, pour éviter d'avoir évidemment tous leurs DVD dans tous leurs entrepôts, parce que là, ils perdaient leur avantage vis-à-vis de Blockbuster en termes d'optimisation des stocks, hein, du coup, c'est un système informatique qui optimise quel DVD on va mettre dans quel entrepôt. Ceux qui sont pris plus rarement, on pense que les personnes vont être prêtes à attendre un peu plus de 24 heures. Et donc on ne va pas les mettre dans chaque entrepôt. Par contre, ceux qui tournent beaucoup, on va les mettre dans chaque entrepôt. Je vais essayer. Parce que là, je n'ai pas le droit de dépasser. Il faudra même que je vous lâche quelques minutes avant. Je vais essayer quand même de finir ça pour ne pas s'arrêter en plein milieu. Alors en termes de contexte, Blockbuster, eux, avaient été rachetés par un groupe qui était très endetté. Donc, du coup, on peut supposer que, comme Blockbuster était très rentable, l'idée était de faire remonter du cash pour pouvoir rembourser les dettes, puisqu'ils s'étaient encore plus endettés pour les acheter, du coup. Hein. Il se trouve que, quand ils veulent lancer un peu le DVD, la Warner, évidemment, à qui ils s'adressent? Ils s'adressent à Blockbuster. Et il leur propose une offre d'exclusivité, c'est-à-dire que Blockbuster, alors je ne sais pas pour combien de temps, mais aurait eu, pour une période un peu significative, aurait été les seuls à proposer les films de la Warner en DVD. En échange, ils étaient, c'est vrai, assez gourmands, la Warner. Alors, au lieu de les vendre 150 $, par exemple, et puis de faire comme pour les cassettes, ils proposaient de récupérer 40% des recettes de location. Alors, ça a pu aussi, ça, freiner Blockbuster. Mais le fait d'être considéré comme une vache à lait peut aussi expliquer qu'ils aient dit non, puisque, bah, du coup, ça veut dire investir. Et donc là, ils préféraient rester avec leur stock de VHS et simplement le renouveler normalement. À ce moment-là, bah, il n'y avait pas non plus de raison particulière pour que Blockbuster s'émeuve énormément de l'arrivée d'un concurrent comme Netflix, puisque Netflix n'est pas rentable du tout, hein, et il fait même de plus en plus de pertes. Le Netflix, à la fin des années 90, a de l'ordre de 300 000 abonnés. Blockbuster a 20 millions de membres. Donc, on voit que ce n'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et puis, bah donc, Blockbuster, eux, ils vont pas du tout aller vers une logique d'exploration. Alors, quand je dis pas du tout, c'est pas vrai. D'ailleurs, parce que c'est. J'écris. Il convient de ne pas caricaturer. En fait, ils vont quand même se dire tiens, l'avenir, c'est peut-être la vidéo en ligne. Hein, à l'époque, on est quand même déjà conscient de ça. Le streaming existe déjà, le streaming vidéo, mais en très basse définition. Hein. Mais on sait bien que les débits vont augmenter sur Internet et que donc peut-être qu'un jour on aura de la vidéo haute définition. Et donc Blockbuster se prépare à ça. Il noue un accord avec Enron pour proposer de la vidéo en streaming à travers le réseau de fibre optique d'Enron. Donc ils sont plutôt à la pointe de ce point de vue-là. Alors là, pas de chance quand même pour Blockbuster. C'est le moment où Enron va faire faillite. Et où d'ailleurs on va s'apercevoir que leurs investissements dans la fibre optique étaient pour l'essentiel fictifs. Donc du coup, évidemment, bah, ça met un coup d'arrêt net à ce projet-là chez Blockbuster. Du coup, vous bah, voyez que faire des pertes de 60 millions de dollars, même quand vous avez un créateur qui en avait 75 au départ, là, ça commence à être très limite. Et donc Netflix est vraiment, vraiment tout au bord de la faillite, au point d'ailleurs que Hastings et Randolph vont, enfin, oui, vont proposer à Blockbuster de racheter Netflix. L'histoire aurait été différente hein, si pour 50 millions de dollars, Blockbuster avait racheté Netflix. Mais il refuse. Alors du coup, bah, dos au mur, il faut absolument redresser la rentabilité. Et donc, il va tailler de façon assez massive et dure dans ses effectifs. Il va supprimer 40% de ses effectifs. Alors même qu'à ce moment-là, le nombre d'abonnés est en croissance. Le résultat, c'est qu'évidemment, ça va mécaniquement redresser les comptes. Hein. Alors, on ne va pas tout de suite faire des bénéfices, mais ça redresse quand même considérablement les comptes. Ce qui lui permet d'introduire l'entreprise en bourse et de la refinancer, du coup. Mais alors, voilà, 1 million d'abonnés en croissance, là, ça commence quand même à gratter un peu Blockbuster. Hein, du coup, eux, ils vont répliquer de façon assez forte et qui aurait pu mettre KO Netflix, puisqu'ils vont lancer un service de location en ligne sur abonnement, ils vont réduire les pénalités de retard, ils vont remplacer les VHS par des DVD. Donc, vous voyez, ce qu'ils ne voulaient pas faire avant, c'était ce gros investissement, hein, puisque à l'échelle de Blockbuster, remplacer les VHS par les DVD, ça leur a coûté 1 milliard de dollars. C'est quand même énorme. Mais là où ils vont donner un coup très sérieux à Netflix, c'est qu'ils vont associer l'abonnement en ligne et l'abonnement dans les magasins. Si bien que bah, si vous êtes abonné Blockbuster, vous pouvez aller chercher vos DVD dans le magasin qui est près de chez vous ou vous pouvez le commander en ligne. Donc du coup, bah, les films un peu rares qu'on ne trouve pas dans le magasin, vous pouvez les avoir en ligne et vous n'avez pas à attendre 24 ou 48 heures votre film comme Netflix qui va vous les envoyer par la poste, puisque vous pouvez aussi, s'il est plus commun, aller le chercher dans le magasin d'à côté. Alors bah, vous le savez, j'imagine, ça s'est pas super bien fini pour Blockbuster, hein. Y a encore un changement d'actionnaire, et là c'est encore pire en termes, je dirais, de volonté de retour financier rapide. Et notamment, bah, ils vont trouver que le Total Access, ça coûte trop cher. C'est pas rentable, alors que ça aurait pu être vraiment l'arme fatale, hein, de Blockbuster, puisque en tenant comme ça à moyen terme, pas sûr que Netflix aurait survécu. Mais du coup, bah, Netflix retrouve son avantage concurrentiel, le nombre d'abonnés repart en flèche, et du coup, bah, là, ils vont vraiment prendre des parts de marché à Blockbuster. Blockbuster va quand même tenter des choses encore un peu pour proposer des films en streaming à travers un rachat, mais c'est trop tard. En fait, l'activité streaming de films, de toute façon, est encore balbutiante. Il y a encore peu de personnes qui ont des débits suffisants pour profiter pleinement de films en haute définition en streaming. Et du coup, bah, l'activité n'augmentait que doucement, alors qu'en parallèle, bah, vous voyez, hein, le nombre de magasins, chaque magasin devenant non rentable, bah, un par un est fermé. Et puis, bah, du coup, je crois que c'est en 2011, Blockbuster bah, fait faillite. Et donc, on a un nouvel exemple de ce qu'on appelle parfois la malédiction des leaders, hein, qui veut que face à des innovations en forte rupture avec la situation actuelle, bah, bien souvent, les leaders réagissent trop tardivement, mal, ou trop tardivement ou trop timidement, et du coup, bah, laisse la place à de nouveaux leaders qui sont assez souvent des nouveaux entrants, parfois des anciens challengers, mais assez souvent des nouveaux entrants. Voilà, donc là, je suis vraiment, je suis désolé, je vais être obligé d'arrêter un peu plus brutalement que d'habitude, juste parce que tout le monde n'était pas là au début, hein, comme je vous ai annoncé hier que je reprogrammais une séance demain. Et que ça a l'air d'être à peu près, vous êtes à peu près les mêmes qu'hier, au moins en grande partie. En fait, en faisant un point, je me suis aperçu que de toute façon, on ne pourrait pas finir le cours demain, et que donc, du coup, bah, ce n'était pas la peine de, à tout prix, vouloir programmer très vite la séance, quitte à finir fin novembre, autant programmer les séances fin novembre, ce qui évitait une programmation au dernier moment. Et par ailleurs, bah, permettez aussi pour ceux d'entre vous qui m'avaient dit, ah bah ce serait bien, j'aimerais bien me mettre à jour, est-ce que vous pourriez rattraper votre retard sur les slides, etc. Bah, du coup, le retard sera rattrapé largement dans l'intervalle et tout le monde pourra se remettre à jour. Donc du coup, il n'y aura pas, contrairement à ce que j'avais dit, de séance supplémentaire demain. Par contre, il y en aura autour du 20 novembre. Je vous donnerai bien sûr les dates. Voilà, donc désolé, je vais être obligé de basculer très rapidement vers le webinaire ESOS. Ceux d'entre vous qui êtes intéressés, j'espère que vous avez pu vous inscrire. Alors, il y a comment dire, l'ancien QR code, visiblement, il y a un bug et il ne fonctionne plus. Bah, si ce n'est pas le cas, je vous renverrai le nouveau QR code, mais là, je ne vais pas avoir le temps de le faire maintenant. De toute façon, si vous inscrivez après, vous pourrez regarder en streaming sur YouTube le webinaire, plus d'ailleurs les webinaires de l'année dernière. Donc voilà, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis bah, peut-être à tout à l'heure pour certains d'entre vous.
Merci, à bientôt.
Bonne soirée.